Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous pour débattre et avec les débatteurs du jour. On va parler de la 5G, un progrès. Ceux qui doutent sont-ils des amiches, comme le dit le président de la République qui a décidé donc de passer en force. On va parler de cet aspect politique puisqu'il ne respecte pas la convention pour le climat. On va parler de la gestion de l'épidémie du Covid, le grand bazar, et puis des squatteurs. Enfin, une loi pour les propriétaires. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, nous débattons avec Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard, et vous êtes également coordinateur d'un livre qui vient de paraître au Diable Vauvert, Dessine-moi un pangolin.
Bonjour Valérie.
Bonjour. Christian de Villeneuve, journaliste politique, vous avez dirigé de nombreuses rédactions. Benjamin Cauchy, porte-parole de Debout la France.
Bonjour.
Bonjour. Et Christine Bouillot, bonjour. Vous êtes à Toulouse, correspondante, bonjour, journaliste à Sud Radio. Bonjour à vous Christine. La 5G, faut-il en avoir peur? Ce qui la redoute, sont-ils des amiches, comme le dit le président de la République, la gestion de l'épidémie, et puis les squatteurs, enfin une loi pour les propriétaires. Petit tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer avec du positif.
Oui,
avec vous,
moi j'avais des coups de gueule, mais bon, je préférais faire un coup de chapeau à Jean-Pierre Pernaut,
ouais,
qui quand même depuis 33 ans, réussi à séduire plus de 6 millions de téléspectateurs, et cela tous les jours.
Ouais.
Et ce, il a réussi ça, malgré
oui,
les moqueries, les sarcasmes, voire le mépris du microcosme médiatique parisien. Et en fait, son succès, il le doit à sa capacité, certes, à traiter l'information qui s'impose, les tragédies, les drames, mais surtout à être capacité à délivrer une information positive, à être utile, à rendre service et finalement à être très proche des gens. Donc, chapeau, ce champion de la proximité.
Voilà, un petit mot chacun, Pierre Jacquemin. allez, Pierre, dites-y bien de Jean-Pierre Pernaut.
J'ai envie de dire chapeau pour la carrière, évidemment. C'est encore rare de voir des journalistes présentateurs comme lui assis à la même table depuis autant d'années. Je peux pas dire que je sois un grand fan de ces journaux qui sont, vous voyez, dans le débat où on se dit toujours, on a eu ce débat, ouais, ici, Valérie, où souvent moi je suis présenté comme un journaliste de gauche, jamais on dira Jean-Pierre Pernaut, ce journaliste de droite.
Oh bah si, ah bah il a eu que ça quand
pardon,
même, Jean-Pierre Pernaut.
On le présente pas comme un journaliste de droite, sans doute que les gens ont intégré l'idée qu'il était de droite, parce qu'on sait très bien qu'il est anti-manifestation, anti-grève, dès qu'il y a des grèves, c'est la catastrophe, c'est feignant, c'est machin, etc. On connaît les propos de Jean-Pierre Pernaut, c'est toujours dans la caricature.
Oh non,
après, bon,
non,
bah
non,
voilà, je salue le parcours et le journaliste, évidemment.
Coup de chapeau, j'imagine.
Oui, coup de chapeau à un journaliste qui finalement ne lisait pas la presse nationale du matin, mais appelait ses correspondants de presse en région pour savoir ce qui s'y passait. Mmh. Et donc finalement, c'était le journaliste de la vraie France. Mmh. Et donc coup de chapeau. Et en plus, il est picard comme moi, donc deuxième coup de chapeau.
Voilà. Christine, voilà. Bouillot.
Oui, alors moi, quand il a commencé le 13h, j'étais encore au lycée. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, quelle carrière, effectivement. Ouais. Après, je rajouterais juste un bémol. On l'a beaucoup critiqué, on l'a souvent copié. Les sujets terroirs, les magazines, voilà. Donner la parole aux Français, c'est ce que globalement toutes les chaînes ont essayé de faire et tout le monde cavale derrière les audiences de Jean-Pierre Pernaut. Quand on fait de telles audiences, je pense qu'effectivement, ils sont loin derrière lui. Mais c'est un personnage, oui, c'est vrai que ça va être compliqué pour TF1 maintenant de trouver le ou la remplaçante. Moi, je parlais pour une femme.
Beaucoup disent que la marque est plus forte, vous voyez, quand il est remplacé. Je pense qu'il y a une réelle
Souvenez-vous,
affection.
Souvenez-vous, Laurence Ferrari, le gadin de TF1 avec le remplacement de PPDA par Laurence Ferrari.
Il y avait eu tout un imbroglio autour aussi qui faisait que c'était pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que quand Jacques Legros remplace Jean-Pierre Pernaut,
bon,
et ça ne retire rien à Jean-Pierre Pernaut, il fait également de très bons scores. Donc voilà.
Oui, parce que les autres. Oui, peut-être qu'on sait aussi que Jean-Pierre Pernaut revient derrière.
Oui, absolument. Benjamin.
Oui.
Aussi un coup de gueule.
Un coup de gueule et puis un coup de chapeau en même temps. Un coup de gueule à un syndicat qui s'appelle le SYMPAS, qui est en fait le syndicat professionnel de l'événementiel et du monde du spectacle, qui depuis le 14 septembre jusqu'au 18 septembre éclaire l'ensemble des façades des bâtiments logistiques ou de leurs lieux de spectacle, puisque le monde du spectacle était abandonné par la crise du Covid par Emmanuel Macron. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans ce secteur d'activité. activités, des dizaines de milliers d'emplois, 80% de chiffre d'affaires annoncés perdus dans ces entreprises. Donc c'est un cri du cœur. Ils ont lancé un hashtag qui s'appelle Alerte Rouge, tout attaché en minuscule. Et donc ils lancent un cri pour être soutenus. Donc j'espère que Roselyne Bachelot entendra ce cri d'alerte.
Elle a pris position, elle, pour le monde du spectacle. Il y a eu quand même...
Vous savez, avec ce gouvernement, il y a beaucoup de prises de position, il y a beaucoup de tweets, il y a beaucoup d'annonces, mais quand on veut des actes et du concret, on attend toujours.
Christian,
c'est très difficile de relancer l'événementiel. Ouais. C'est très difficile parce que l'événementiel, c'est aussi les opérations de promotion organisées par les entreprises. Et, bon, et ça, le gouvernement, il n'est pas responsable de ça. Donc c'est un moment, et il y en a pour deux ans. Donc qu'est-ce que vous proposez ?
Alors il n'est pas responsable, mais en attendant, vous savez, je prends un exemple en parallèle, moi qui vis régulièrement en Occitanie, Safran, Airbus, Thales sont des compétences d'ingénierie extrêmement fortes, et donc les plans de sauvegarde de l'emploi font que pour éviter que ces compétences partent à l'étranger ou qu'on perde ces compétences sur le territoire, eh bien on biberonne entre guillemets ce secteur d'activité. L'événementiel et le spectacle, c'est tout ce qui fait tourner la culture française, qui fait la promotion de la culture française. Je pense qu'on peut accompagner durablement
Benjamin Cauchy,
que ça redémarre.
Benjamin Cauchy, pour en avoir parlé justement hier soir de ce sujet-là avec des professionnels de l'événementiel, puisque bientôt en Occitanie, vous n'êtes pas sans savoir que le troisième plus grand parc des expos devrait ouvrir ses portes.
Hein. Oui,
c'est
absolument.
Un lieu colossal. La jauge est réduite à 100 personnes pour l'inauguration. Donc, c'est ni le gouvernement ni l'événementiel. C'est qu'on dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible de mettre 3 000, 4 000 ou 5 000 personnes. C'est que la jauge est à 100 personnes. Mmh. Donc, vous voyez bien que le traiteur qui a prévu 5 000, il descend à 100. Et tout ça, ce n'est pas qu'une question du gouvernement. C'est une question tout simplement de circulation du virus.
Absolument.
Donc là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et le chômage partiel de longue durée est accordé au secteur de l'événementiel. Sauf qu'aujourd'hui, les trésoreries sont exsangues.
Voilà.
Et donc, ils ont une difficulté autour de ça. Et ils ne connaissent pas la date de fin.
Absolument.
Voilà, sur l'événementiel aujourd'hui, il y a véritablement il y a le spectacle vivant, il y a tout ce qui se fait dans les entreprises. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour les entreprises de l'événementiel. Mais comme ils n'ont pas de visibilité, aujourd'hui, ils ont une situation qui est quand même très compliquée.
Oui. Y a la pas seule visibilité qu'ils ont...
C'est sur le sanitaire. Et là, je ne sais pas qui a la solution.
Oui, vous avez raison. Il n'y a pas que le gouvernement
qui est
responsable. Et les entreprises, aujourd'hui, sont bloquées. Pierre Jacquemin.
Oui, j'ai le droit à deux coups de gueule.
Deux coups de gueule.
J'ai le droit à deux coups de gueule.
Contre la grève à la SNCF.
Moi, je pense que vous allez en parler demain. Donc, j'en parlerai aussi demain. Non, je commence d'abord par le débat qu'il y a eu ces derniers jours sur la question de la pénurie et du manque de médicaments, qui avait déjà été au cœur de l'actualité il y a un an, et ça avait été justement introduit dans le cadre du PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, où le gouvernement, pour remédier justement à cette question de la pénurie de médicaments, avait proposé d'imposer aux entreprises d'avoir un stock tournant au cas où la chaîne d'approvisionnement justement des médicaments les plus importants, en tout cas ceux qui sont d'intérêt thérapeutique majeur, puisse exister si manque il y avait dans le cadre de cette loi une proposition qui était de l'ordre d'un stockage de 4 mois pour les entreprises. Aujourd'hui, le gouvernement semble vouloir reculer. Alors on peut imaginer que là où on pense qu'il n'y a jamais de lobby pharmaceutique ou industriel, visiblement on se pose la question, puisqu'aujourd'hui le gouvernement semble vouloir reculer sur cette disposition, parce qu'il passerait de 4 mois à 2 mois, ce qui reviendrait à dire que les gens qui sont souffrant de thérapie ou de maladies chroniques ou de maladies graves, type cancer, etc., pour les médicaments qui pourraient être amenés à utiliser, devraient être ceux qui justifieraient justement la nécessité de ces médicaments pour que les entreprises soient obligées de stocker ces médicaments en préventif, alors que c'est principalement le rôle de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Je trouve ça absolument ahurissant compte tenu du contexte dans lequel on évolue, d'avoir ces aider sur sans doute une pression qui a été la pression des laboratoires pharmaceutiques.
Ouais. Et puis votre
et l'autre coup de gueule, parce que vraiment ça m'a... Bon allez, je sais que c'est difficile d'avoir un débat apaisé sur le sujet, mais bon, être Charlie, c'est, je crois, être pour la liberté de critiquer, pour la liberté de défendre ses opinions et la liberté de caricaturer aussi, puisque c'est le principe même de Charlie. Mais j'avoue que la couverture qui est sortie hier m'a profondément choqué. J'ai énormément d'estime et d'admiration pour Edoui Plenel. Pareil pour un Jean-Luc Mélenchon, qui a une intelligence, je pense, assez importante, une culture très importante. Et la caricature qui a été proposée hier, qui consiste à dire que Jean-Luc Mélenchon et Edouard Pénel, en gros, soit vous êtes Charlie, soit vous êtes Kouachi. Et en gros, ils soupçonnent à travers la caricature qu'ils sont Kouachi, parce qu'ils disent toujours, évidemment, si être Charlie, c'est être pour la liberté de la presse, on est Charlie. Après, on a le droit de ne pas être Charlie, au sens où on n'est pas pour la ligne éditoriale de Charlie. Eh bien, ce que je veux dire, moi, c'est ma liberté de le dire, c'est que je critique profondément la lecture qui est faite de ce que l'on vit en ce moment et cette simplicité avec laquelle on raisonne. C'est-à-dire que c'est pas possible de considérer que parce qu'on porte le voile, on est un terroriste en puissance. C'est pas possible de considérer que parce que effectivement, on n'adhère pas à la ligne de Charlie, on est un terroriste ou en tout cas, on est un allié des terroristes. Et cette lecture-là, elle est dangereuse. En fait. Elle est très dangereuse.
Un petit peu plus loin. Je rappelle que la une, c'est plutôt Charlie ou Kouachi. Effectivement, il y a Edwy Plenel, Jean-Luc Mélenchon et Tariq Ramadan. Et donc, ils ont chacun dans la narine un test PCR avec en légende, on attend les résultats. Sauf que, moi, je trouve que vous simplifiez un petit peu les choses. C'est-à-dire qu'on a eu le débat très longuement lundi, hier, à propos du tweet de Judith Weintraub. Certains ont très bien compris ce qu'elle voulait dire. Elle n'assimilait pas cette jeune femme qui, par la suite, en plus, on s'est rendu compte qu'elle était quand même militante pour le voile. C'était de dire, quelque part, cet islamisme, cet islam politique est en train de gagner du terrain.
Là, vous avez fait encore un raccourci, Valérie. On ne peut pas parler d'islam politique avec cette jeune femme, Iman, qui ne revendique pas un islam politique.
Bien sûr que si.
Elle revendique une religion. Elle porte un voile, elle revendique une religion. Elle n'est pas là pour dire qu'il faut imposer les lois des musulmans sur les lois de la République.
Elle dit qu'elle va envoyer des Corans et des voiles à toutes les jeunes femmes qui veulent se convertir dans un endroit discret si on ne veut pas que leur famille le sache. Donc il y a bien
c'est le droit d'assumer sa religion.
Puis sur Plenel, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus avec vous, mais je ne sais pas ce que...
Oui, Makoshi. Charlie Hebdo est libre, c'est ce qui fait sa spécificité. Effectivement, je pense que vous faites un petit peu de simplisme appliqué, que vous aimiez Jean-Luc Mélenchon, c'est une chose, mais après que Jean-Luc Mélenchon
Écouter le discours, je ne dis pas que je l'aime, je dis qu'il faut écouter le discours.
Vous l'appréciez, pardon. Et quoi qu'il en soit... Être Charlie, c'est accepter les critiques. Je crois que Charlie ne s'est jamais gêné. Là, aujourd'hui, c'est Mélenchon. Hier, c'était Marine Le Pen. Et avant-hier, c'était Macron. Et avant-avant-hier, c'en était un autre. Chacun son tour. Et c'est ce qui fait la beauté et l'impertinence de la ligne
éditoriale. Je leur donne le droit de faire, évidemment, la couverture qu'ils ont. Sauf qu'elle m'a profondément... Oui, mais plus que des plus. De la même manière qu'un journaliste qui écrit un édito, j'ai le droit de le condamner, j'ai le droit de le critiquer parce que je ne suis pas d'accord avec cette ligne-là. Oui. La ligne de Charlie, qui est celle de la couverture d'hier, je la trouve totalement à côté de la plaque. Dangereuse.
Allez, Christine Bouillot, coup de gueule.
Oui, contre la rentrée universitaire. Ah oui, Frédéric Vidal qui demande aux étudiants de se ressaisir parce qu'il y a trop de clusters dans les universités. est-elle seulement allée... allez, on va prendre l'université de droit et sciences éco de Toulouse, où les étudiants s'entassent littéralement, sont dans les couloirs et assis par terre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de place. Donc moi, j'ai un petit peu de mal avec ce discours de taper sur, on va dire, la responsabilité des étudiants. Certes, ils font la fête, ils sont jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas à 1m50
de mètre
les uns des autres. Il y a d'autres endroits où ça arrive aussi, donc faut relativiser aussi leur implication, mais déjà essayons de faire une rentrée pour eux la plus correcte possible, pour éviter les clusters évidemment, distribuons à ce moment-là des masques, parce que je rappelle le coût du budget du masque pour un étudiant, c'est quand même quelque chose qui représente une certaine somme, donc voilà, ça m'a un peu agacé d'entendre qu'encore une fois la jeunesse de ce pays est responsable de la propagation du virus. Peut-être oui, mais tout le monde est dans ce cas de figure-là. En attendant, la rentrée universitaire est un... On va vers le fiasco, parce qu'en plus de ça, on s'aperçoit que le distanciel n'est pas prêt. 35 millions d'euros sont mis sur la table cette rentrée pour préparer le distanciel. Le virus est là depuis mars.
Il n'y a jamais eu autant d'étudiants, en plus, parce qu'avec un taux de réussite au bac de 96%. donc, il y a une impréparation Certains responsables politiques avaient déjà alerté au mois de juillet. Comme quoi la rentrée universitaire et scolaire n'était pas assurée. La preuve en est, et surtout en première année. En première année, les amphithéâtres sont bondés. C'est incompréhensible. Oui. Inacceptable.
Oui. Benjamin
Cauchy. Malgré les directives qui ont été passées par le ministère de l'Enseignement supérieur durant l'été, il y a de nombreux professeurs, et notamment Tania Enaudi, qui est la présidente de l'association des DUT Carrières Juridiques en France, qui expliquait que concrètement, il fallait doubler les locaux pour pouvoir faire du distanciel présentiel. Rien n'est
prêt.
Un mot distanciel, présentiel. Je trouve ces mots absolument abominables. Oui, la rentrée universitaire.
Mais c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, il y a une mobilisation importante des enseignants-chercheurs aussi qui se mobilisent à la fois pour les budgets qui manquent à la recherche aujourd'hui universitaire et aussi pour les conditions dans lesquelles les étudiants sont traités. Et je pense toujours à ce qui a été. On dit toujours, mais qu'est-ce que vous feriez? Et qu'est-ce que ne fait pas la France qu'elle aurait pu faire? Je vois, en Italie, je ne dis pas que tout est bien en Italie, mais en Italie, la rentrée scolaire universitaire a été anticipé. On a doublé la capacité d'hébergement des écoles dans les villes. Pareil pour les domaines universitaires. C'est pas impossible d'imaginer de trouver des locaux. On va parler peut-être tout à l'heure des locaux vacants. Ouais. Il y a des locaux vacants qui pourraient être mis à disposition justement pour dédoubler. Et surtout, si on dédouble, ça veut dire recruter des enseignants. Et ça, j'entends pas ça dans le discours du gouvernement.
Mais je crois que le gouvernement redoute justement une montée des mouvements étudiants dans les prochaines semaines. Hein. Ouais. Et ça en prend bien le chemin. Surtout quand on fait un haro sur les jeunes comme on le fait actuellement.
J'ai le souvenir fin juillet, j'en arrêterai là, du président Hervé Morin, le président de la région Normandie, qui a alerté justement le ministère de l'enseignement supérieur.
Le 15 juillet,
voilà, mi-juillet, en disant, mais attendez, nous on est prêts à tout, mais dites-nous si on doit, un, acheter des ordinateurs, deux, compléter les recrutements, trois, aménager des espaces publics, des locaux publics pour pouvoir mettre en place, mais dites-le nous.
Sans parler des transports scolaires.
Et les universités sont autonomes, hein, donc il y a aussi leur part de responsabilité.
Absolument, chacun est responsable.
Avec le problème que pose l'autonomie et les moyens qui sont pas les mêmes d'une région à l'autre et d'un établissement universitaire à l'autre.
Absolument.
Un coup de gueule de ma part pour le maire de Lyon, une fois de plus, qui a boycotté, hier les trophées de la gastronomie et des vins à Lyon. C'est la première fois depuis 11 ans que la ville refuse d'être partenaire de cet événement. Il y avait les plus grands chefs, Aleno, Marx, Vera, Gagnère. Je trouve ça assez triste.
Mais les maires, vous me regardez, je vais vous
faire
ce qu'il faut.
Il les accumule. On a l'impression que tout ce qui est plaisir, il y a quelque chose.
Quel est l'argument, Valérie? J'ai pas lu ça.
L'argument, c'est que ça l'intéresse pas et qu'il voit pas pourquoi la ville de Bocuse serait partenaire de cet événement. Il n'y a pas été. Que la ville ne soit pas partenaire, c'est une chose, mais il n'a même pas été. Enfin, il était invité,
il
n'y est pas allé.
Il n'aime pas le Tour de France, il n'aime pas la gastronomie.
Mais c'est pas vrai. Je sais pas, j'ai pas vu cette histoire de gastronomie. En revanche, sur la question du Tour de France, là aussi, il faut regarder quand même. Il faut pas couper la parole du maire de Lyon. Le maire de Lyon a un propos un tout petit peu plus subtil que de dire.
C'est pas qu'il s'est rattrapé, c'est
qu'il faut écouter le message qui le leur dire. On peut pas dire qu'on peut pas continuer comme avant. On peut pas continuer les caravanes du Tour de France. Parce que c'est d'abord très très polluant.
Et quand il
dit que c'est machiste, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on fait la promotion du Tour de France masculin et qu'on ne fait pas la promotion du sport du vélo féminin. Et par ailleurs, souvenez-vous la polémique qu'il y avait eu sur la fin des parcours. La fin de chacune des étapes où les femmes en courte jupe décident de mettre les médailles aux coureurs, oui, ça c'est machiste, ça a été abandonné, donc tout le monde est d'accord sur le fait que oui, il y avait des fondements machistes dans le Tour de France.
On voit pas
des hommes qui viennent remettre des médailles aux femmes.
Je vous donne la parole à tous, mais il faut qu'on marque une pause, je pensais pas que ça enflammerait à ce point-là.
On est
chaud. Le plateau, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio, donc j'ai lancé un débat en lançant donc ce coup de gueule sur le maire de Lyon, donc qui ne se rendra pas, c'est le 26 octobre, à ces journées, à ces trophées de la gastronomie, qui est quand même Lyon, la ville de la gastronomie. 16 000 euros donc en moins pour cet événement auquel la ville a refusé de s'associer. Alors on parlait des Verts et du Tour de France, Pierre Jacquemin qui a défendu le côté sexiste.
Non. Ah oui, j'ai défendu l'accusation sexiste.
Oui, l'accusation sexiste.
Moi, les maires écolos, ils m'amusent quand même. Ce sont des anti-France. Ils refusent le Tour de France. Ils refusent le 14 juillet dernier la patrouille de France. Là, c'est la gastronomie française. Et puis, clairement, qu'est-ce qui est machiste dans le fait que des femmes, au-delà de donner un bouquet de fleurs, font tout un travail de relations publiques? Ça, il faut le savoir, c'est que les hôtes et hôtesses du Tour de France, au-delà d'être présents...
Quelle image qu'on garde? On ne les voit pas, ces femmes-là, faire ce métier dont vous parlez, qui font des relations publiques? On voit quoi à l'image? On voit des femmes qui sont des pots de fleurs. Qui donnent
vous savez, la vraie vie, ce n'est pas Loft Story. Vous savez, vous êtes journaliste, là, on vous voit à l'antenne avec Sud Radio, mais on ne sait pas lorsque vous travaillez travaillez avec vos amis dans une rédaction. Ou alors, vous décidez de mettre une caméra en permanence sur vous. Non. Donc là, effectivement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on ne peut pas résumer le métier et donc imposer la chasuble de machisme autour de France parce que des femmes qui font une opération, qui travaillent pendant plus de 20 jours en relations publiques à travailler intelligemment et avec du fond, avec des partenaires économiques, avec des partenaires sportifs. Mais bien sûr que si. Moi, j'étais hôte dans ma jeunesse, oui. Ça serait complètement machiste. En revanche, prends juste la parole. Les Verts veulent vraiment défendre le machisme, j'aimerais entendre les maires écolos
combattre le machisme.
J'aimerais les entendre combattre le machisme dont font preuve parfois Judith Weinbrom, Christine Kelly, Charlotte Dornelas, Zineb et compagnie. Toutes ces femmes courageuses qui portent un message, qui sont souvent aussi acculées sur les réseaux sociaux, non pas forcément parce qu'elles disent quelque chose de différent ou de brillant, mais aussi parfois parce qu'elles sont des femmes. Et là-dessus, les maires écolos, ils sont complètement muets. Enfin, s'ils veulent vraiment lutter contre le machisme ambiant, j'aimerais bien vérifier si tous les fonctionnaires territoriaux de leur commune, hommes et femmes, sont payés avec le même traitement. Regarde. Et s'il n'y a pas toujours 14% de différence entre les hommes et les femmes.
Ça, c'est du concret. Qui apporte des femmes aujourd'hui dans les grandes municipalités, si ce n'est les écolos?
Le maire de Lyon est un homme, le maire de Bordeaux est un homme, le maire de Nantes est un homme, le maire de Rennes est un homme.
Ne faites pas de manspreading. On laisse parler Christine Bouillot.
Surtout pour parler de sport féminin que je connais particulièrement
bien. Vous avez été championne de hand.
Oui, mais il n'y a pas que ça. Et je continue à militer dans ce genre de... Parce que j'aimerais... En fait, le sujet que lance le maire de Lyon est un sujet simpliste. C'est-à-dire qu'on prend le sujet de la présence des femmes dans le sport par le petit bout de la lorgnette. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le sport féminin est à la traîne. Le sport féminin va subir de plein fouet la crise du coronavirus parce que le sport, dans son ensemble, lui va alors vraiment, vraiment connaître une période de crise. Et j'aimerais que tous les maires écolos... et de droite et de gauche, enfin que tous les élus se mobilisent vraiment, quand par exemple il y a une compétition féminine ou il y a un championnat féminin qui n'apparaît pas à la télévision, où se trouve le championnat de France de volley féminin, de handball féminin, de foot féminin, sur quelle chaîne de télévision à l'heure de grande écoute. Aujourd'hui c'est une catastrophe. Donc le vrai débat sur la présence ou non, si le Tour de France...
Avec les Lyonnais,
oui,
notamment.
Mais enfin, on part de tellement loin. Bien sûr qu'il fait des progrès, mais on part de tellement loin. Et j'ajoute aussi que c'est à la, on va dire, au bénéfice de deux dirigeants qui sont celui de l'OL, hein, de Lyon et de Montpellier. De deux dirigeants d'entreprises privées. Donc ça ne vient pas de la force publique, ça ne vient pas des élus. Et ça, c'est un vrai combat que les maires écologistes pourraient effectivement mener aux côtés des instances du sport féminin.
Non, ce qu'on leur reproche d'une manière générale, on va clore le débat, c'est de faire des coups de menton ou d'avoir des décisions relativement anecdotiques, c'est ce que dit Isabelle Saporta, c'est-à-dire qu'on focalise le débat sur le sapin de Noël, sur des choses comme ça.
Et c'est nous, les journalistes, qui focalisons sur ça, parce que regardez le projet de Pierre Rumic à Bordeaux, c'est pas de couper, de pas d'interdire les Bordelais d'avoir un sapin, il a un projet quand même beaucoup plus ambitieux sur la question de l'urbanisme, sur la question des transports, de la mobilité.
Il y a des acteurs qui nous intéressent pas.
Et par ailleurs, encore une fois, j'entends l'accusation d'Ayatollah, mais il dit pas je vais imposer. D'ailleurs, il propose une consultation dessus. Donc, il faut du débat public et il propose du débat public.
On va encore parler. Écologie avec la 5G, puisque la gauche écologiste est extrêmement réservée sur ce projet, et il y a un affrontement politique très clair avec Emmanuel Macron, qui a donc déclaré oui, la France va prendre le tournant de la 5G, c'était devant les entreprises du numérique, et il a ironisé en disant que ceux qui le refusaient étaient plus pour le modèle Amish, à savoir des gens qui vivent complètement reclus, sans nouvelles technologies, sans rien. Donc le fond, moi je le connais pas sur la technologie en elle-même, mais il y a un débat politique aujourd'hui, un affrontement avec du en même temps de la part d'Emmanuel Macron où on caresse les Verts dans le sens du poil, et puis... Il a eu la consultation. Ça fait partie de la consultation en disant qu'il n'y aurait pas la 5G. Là, il passe en force.
Honnêtement, je trouve que c'est une polémique totalement inutile et qui est, une fois de plus, que dans la France se fait la championne. On sait très bien que il y a eu en plus après avec le confinement une explosion d'internet. Cette explosion, elle va se poursuivre. On sait très bien que la 4G, elle arrive va arriver à saturation à la fin de l'année et que d'autre part, elle est défaillante par exemple dans la campagne. On sait très bien qu'on va avoir de plus en plus besoin avec le télétravail, le développement du télétravail. Donc, et on voit bien qu'à l'étranger, déjà la France a 18 mois de retard par rapport à ses partenaires européens. Donc si on veut rester dans la compétition internationale, on n'a pas le choix. C'est aussi simple que ça. Il n'y aura plus aucun investissement d'investisseur étranger vient en France si ici il ne peut pas faire fonctionner ses robots parce que la circulation de l'information est insuffisante. Donc il y a un moment, je trouve que c'est totalement inutile. Je pense que la polémique entre autres, l'opposition des écologistes est extrêmement, extrêmement idéologique. Ils la tiendront pas très longtemps. Ils la tiendront pas longtemps parce qu'elle est impossible. Alors, c'est vrai que Pompili est au gouvernement, mais ce matin, elle a encore expliqué que les conditions sanitaires sont préservées. Donc là encore, on va se lancer dans une opposition assez radicale qui n'a pas lieu d'être. Je pense que c'est un combat d'arrière-garde.
Oui, mais c'est surtout, enfin là politiquement, la Convention citoyenne, Emmanuel Macron s'était engagé à vouloir reprendre toutes les propositions et ça en faisait partie.
Donc de quoi,
la consultation, le moratoire.
Il y a un rapport actuellement. Il y a eu 4 rapports. Quatre agences ont travaillé sur la question pour vérifier justement les conditions sanitaires et environnementales de la mise en place de la 5G. Il y a un nouveau rapport qui doit atterrir sur les bureaux en 21. Donc on peut pas dire qu'il n'y ait pas de consultation ni de transparence.
Oui. Alors, oui. Peut-être Christine Bouillot.
Alors,
soyons pas machistes.
J'ai l'impression de revivre en démarrant ce sujet-là le débat qu'on a eu il y a 25 ans sur les OGM. Il y avait les pour et les contre et de toute façon personne n'était conciliable et réconciliable surtout parce que on s'envoyait des rapports à la figure qui était soit officiel, soit commandé. Donc finalement, le citoyen en lui-même n'y voyait pas clair et ne savait pas quels étaient les tenants et les aboutissants. Il y a une chose, moi, qui m'interpelle dans la phrase d'Emmanuel Macron, c'est comparé aux Amish. On sent très bien que là, il est dans un temps politique où il clive véritablement cette rentrée, comme sur la sécurité, les deux camps entre la gauche et la droite, entre les écologistes et les ceux qui veulent le progrès. Parce que comme ça, il renvoie les écologistes à une frange de cette population, comme les Amish, hein, qui refusent tout avancement du progrès. Donc on est vraiment dans un temps politique sur une question et la fois économique et surtout sanitaire. Donc après, pour l'anecdote aussi, n'oublions pas que comparer les écolos aux Amish, je ne comprends pas qu'ils ne soient pas montés au créneau encore plus fort que ça, parce que c'est aussi des polygames.
Oui, c'est ce que vient de dire Christian de Villeneuve, absolument. Voilà. Alors Pierre Jacquemin.
Moi, je me souviens de la phrase d'Emmanuel Macron, enfin même pendant la campagne électorale, il avait dit, moi, président de la République, je ferai l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. À peine un an plus tard, il renonce à faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je dis ça parce que c'est la mobilisation écologiste qui a fait éveiller les consciences, ou en tout cas prendre conscience que cet aéroport était totalement anti-écologiste. Le problème de la 5G, il cristallise plusieurs sujets. Il y a la question sanitaire. Je ne sais pas répondre à cette question. Il y a des études qui sont en cours. Il y a effectivement, vous l'avez cité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui travaille dessus et qui va rendre un rapport au premier semestre de l'année prochaine. Il y a aussi la question environnementale. On ne sait pas quel impact ça a sur l'environnement. Et il y a aussi la question d'ordre sécuritaire. Parce que, pardon, mais confier à une entreprise chinoise dont on connaît aujourd'hui la manière de traiter les informations, les données numériques.
La Chine était exclue de ça?
En tout cas, les tests qui devaient avoir lieu à Bordeaux, c'était Huawei qui avait obtenu les marchés.
Ça a été exclu, ils ont été exclus, Huawei.
Ok. Ouais. Emmanuel Macron décide de clore le débat en disant « Tous ceux qui sont contre sont des archaïques, ce sont des conservateurs, ce sont des Amish. » S'il y a bien une chose chez les Amish qui devrait nous porter attention, c'est l'esprit de démocratie. Les Amish, quand il y a un sujet de progrès technologique qui doit s'inscrire dans leur communauté, ils ont un vote, ils décident si oui ou non on a le droit de prendre la voiture, si on a le droit de faire du covoiturage pour aller d'un point à un autre parce qu'ils considèrent que la voiture c'est pas bien, machin, etc. Donc au moins la démocratie, elle marche chez eux. Il n'y a pas tout évidemment qui est... Tout n'est pas forcément acheté, il faut regarder.
Je suis pas complètement sûr.
Ce qui se joue à travers la 5G et ce qui va être insupportable dans les arguments évidemment de ce gouvernement, ça va être de dire c'est un débat tellement technique que les Français n'y comprennent rien, comme par hasard ce sont tous des imbéciles les Français. Moi je me souviens très bien du moment du TCE, le traité constitutionnel européen, qui a fait l'objet de d'énormément de débats où effectivement personne n'y comprenait rien, mais à la fin il n'y avait jamais eu autant de ventes de livres et les gens avaient compris ce que c'était que ce projet et ils s'étaient majoritairement prononcés contre ce projet, même si évidemment on sait tous que tout ça n'a pas été suivi d'effet. Donc oui, évidemment, je pense que la 5G, ça pose une question de société, ça pose aussi une question de comment on veut vivre, à quelle allure on veut vivre, et donc ça mérite un débat public, un débat politique. Et donc la seule demande des écologistes, et j'ai entendu Jadot il y a quelques jours dire, je ne suis pas contre la 5G, je suis pour une réflexion collective sur l'impact de la 5G sur nos vies. C'est logique.
Mais personne n'est audible en fait dans ce débat. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui vont vous dire, on ne croit pas ces études. Les études ne sont pas transparentes.
Au-delà des études, vraiment, je pense qu'il y a la question de quel impact sur nos vies. On vient de découvrir le monde.
Vous vous souvenez du débat sur la Wi-Fi ? Vous vous souvenez du débat sur le micro-ondes ? Vous vous souvenez de tous ces débats qu'il y a eu, le compteur Linky et autres ?
Absolument. Et je vois aussi les expériences qui sont celles des pays comme la Suisse qui ont fait bien avant nous, en 2019, l'installation de la 5G et qui, trois mois après l'installation de la 5G, ils ont constaté chez les habitants, là où on avait mis justement les pylônes, qu'il y avait eu des habitants qui s'étaient plaints de maux de tête, qui s'étaient plaints des impacts à la fois sur l'environnement et sur leur vie à eux aussi. Et d'ailleurs, c'est l'OMS qui le dit elle-même. L'OMS, elle explique que le rayon de cette 5G électromagnétique est le plus fort de tous les rayons et que c'est le plus cancérigène aujourd'hui et qui soit connu. C'est l'OMS qui le dit. Donc, tenons compte aussi de tous ces avis. Et encore une fois, ne prenons pas des décisions de manière radicale. Portons le débat sur la voie publique. C'est ça qui est demandé. Comment... C'est ça que nous demandent les écologistes. Il faut arrêter de dire que ce sont des ayatollahs.
On dit que vous parlez très vite, Pierre.
Oui, je parle trop vite, mais parce que je sens qu'on veut me couper la parole à chaque fois. J'essaie de le placer.
Ça y est, je vous persécute. Le syndrome de gauche classique.
Donc, le débat paraît légitime. Voilà. Et c'est ce que demandent les écologistes.
Benjamin Cauchy.
Écoutez, chez Debout la France, nous ne sommes ni des Amish, pour information, ni des geeks aveugles californiens. Je trouve que l'idée de la gauche que de dire on va faire un moratoire et on va remettre ça au calendrier grec, pour moi, c'est pas une solution. En revanche, effectivement, on attend un rapport indépendant de l'autorité sanitaire, des rapports indépendants. Ce sont des rapports qui sont payés par Bouygues, Orange ou Huawei, aucun intérêt. Donc, nous sommes vigilants. Et puis, effectivement, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une compétition internationale, que nous sommes fiers d'être Français. On veut toujours que notre pays brille. Et donc, pour cela, il faut que nos entreprises, nos PME, nos PMI puissent utiliser les technologies qui sont, de pointe, d'une part, mais qui soient en cohérence avec la qualité de vie des citoyens. Et ça, c'est indubitable, mais c'est aussi indubitable que de réfléchir à l'aménagement du territoire grâce à la 5G. Mmh. On a bien vu durant la crise des Gilets jaunes le problème de mobilité, problème du coût des logements quand on vit dans les métropoles ou vivre loin. Avoir des technologies de communication qui permettent soit aux entreprises de se mettre plus dans des zones rurales ou dans des départements qui ont besoin de revivre et réfléchir tout un nouvel aménagement du territoire. Si la 5G peut l'accompagner dans le respect des règles sanitaires et faire en sorte que ça n'empiète pas sur la santé des Français... Mais banco.
Mais est-ce qu'on n'est pas quand même dans un débat idéologique ? C'est-à-dire que, un peu comme pour le
Macron
vaccin...
Macron occupe le terrain avec ça.
Je vois Cédrico qui a répondu à Clémentine Autain en disant qu'il était d'accord pour un débat sur des bases scientifiques, mais pas si on agite des peurs. La France possède l'un des cadres de protection les plus exigeants, mais qui va croire que les rapports
Ce que j'observe, en tous les cas, c'est cette crainte des nouvelles technologies qui sont à notre disposition. Vous disiez, Valérie, on se souvient des débats autour du Wi-Fi, ça n'en finissait pas, on allait être mangé tout cru et devenir des martiens. Aujourd'hui, on est incapable de vivre sans Wi-Fi parce que on a tous un téléphone, voire deux chacun, tous sont plus ou moins connectés, voire beaucoup connectés à Internet, et donc on sait aujourd'hui que, par exemple, il y a des zones blanches en France qu'il n'y a pas dans le désert. Ouais. Donc,
ça permettrait effectivement à ces zones blanches d'accéder tout de suite à du à très très haut débit. Très haut débit. Et vrai que ça changerait les choses.
Et c'est un développement économique des territoires, donc ça répond à une logique. Alors qu'après, la force publique mette des garanties, mette des garde-fous et donne la possibilité à chacun de choisir, personne n'oblige personne à prendre la 5G et un abonnement 5G.
Non, mais il va y avoir les antennes, c'est surtout ça. Moi, je voudrais
regardez la carte de France des antennes qui existent déjà aujourd'hui. On est déjà cerné. Ouais. Donc on remplacerait des antennes par des antennes qui sont
d'autres antennes.
Tout simplement.
Ouais.
Absolument.
Mais moi, je vais poser une question quand même, qui est pas idéologique, que je pose vraiment sur la table, et j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est vrai que ça pose aussi la question de quel mode de vie on veut avoir. Est-ce qu'on veut un mode de vie qui soit de plus en plus accéléré? Est-ce qu'on veut travailler plus avec une 5G qui va sans doute nous conduire à travailler davantage et avec sans doute peut-être plus d'efficience? Est-ce qu'on veut cette accélération de la vie? Est-ce qu'on a besoin de ça? C'est vraiment la question qu'il faut se poser.
Moi, j'ai envie de vous répondre.
Le contexte dans lequel on vit se pose sur la question de la productivité, la question de la consommation en permanence.
Personne ne vous empêche d'aller vivre chez les amis.
Mais Pierre, venez, vous allez vous éclater en calèche.
Arrêtez de caricaturer. Je pose une question. La période qu'on vient de vivre devrait nous faire poser la question de dans quel monde on a envie de vivre. Est-ce qu'on a besoin de ça? Si la 5G sort demain, évidemment, je serai le premier à avoir un téléphone avec la 5G. Mais est-ce que vraiment on en a besoin?
Je comprends pas. Est-ce qu'on en a besoin? Oui, mais vous dites que vous la prendrez la 5G.
Évidemment, mais comme on est tous des sujets des modes de consommation. Mais c'est le moment aussi de s'interroger sur notre société de consommation.
Je vais essayer d'apporter un bout de réponse.
J'essaye de mettre un peu d'eau à
votre moulin, à votre question. Pour moi, la 5G, si ça respecte à la fois l'environnement, mais également la santé des Français, je ne pense pas que ça va accélérer les choses. Vous savez, je pense, vous êtes toulousaine, madame, lorsque l'on habite à Gaillac, par exemple, et qu'on fait quasiment 2 heures aller-retour pour aller travailler à Toulouse, qu'est-ce qui est le plus dangereux? Est-ce que c'est de pouvoir télétravailler avec la 5G depuis chez soi à Gaillac, ou est-ce que c'est vivre 2 heures de bouchon aller-retour pour aller travailler à Toulouse
déjà
pour faire la même chose? Qu'est-ce qui est mieux en qualité de vie? Est-ce que c'est d'avoir le temps d'emmener ses enfants à l'école tranquillement et de télétravailler à la maison avec une puissance qui est la 5G, ou est-ce que c'est de galérer dans les bouchons tous les jours?
La 4G, ça marche très bien, le Wi-Fi, ça marche très bien.
Je pose vraiment la question sur le sujet 0826.
Vous avez besoin d'un frigo, aller chez le boucher tous les matins.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Débat autour de la 5G. Je ne sais même plus où on était parce qu'on a continué notre débat. Mais politiquement, quand même, Emmanuel Macron prend un risque en se mettant les écolos à dos en prévision des législatives, de l'élection présidentielle, quand on voit leur poids. Je ne pense pas que tous les
écolos sont sur la base de la condamnation de la 5G ou de la mise en cause de la 5G. Il y a qu'à voir Madame Pompili ce matin, ministre de l'Environnement.
Oui, mais elle est un peu dans le gouvernement.
Est-elle vraiment écologiste?
C'est un faux procès. Donc, je pense que c'est tous les problèmes en France aujourd'hui sont radicalisés et c'est un peu.
Vous avez raison.
C'est un peu ridicule, je suis pas sûr qu'il a pris un risque.
En plus, le terme c'est peut-être pas radicalisé, mais c'est au moins caricaturé. Parce que encore une fois, les écologistes, vous les écoutez, ils vous disent pas on est contre la 5G. Ils demandent un débat public sur l'impact de la 5G. C'est légitime.
Ça va avoir un impact colossal, mais ça va avoir aussi un impact colossal sur l'économie du pays.
On va prendre
un retard considérable par rapport à d'autres pays.
On a su faire des choix qui ont eu des impacts sur la question économique. On l'a vu pendant la période du confinement qui était très forte, qui ont eu un impact très fort. On doit pouvoir aussi s'interroger sur des impacts technologiques comme la 5G sur la vie des gens.
Mais pourquoi, a priori, tout ce qui est progrès est mauvais?
C'est vrai que c'est une question, peut-être aussi des épisodes précédents, ces chats échaudés craignent l'eau froide, ont mal été abordés. Je reviens sur mes OGM, je me souviens très très bien des faucheurs volontaires, et on n'arrivait pas à voir le vrai du faux, et tout ça n'était pas apaisé, ce débat-là. Donc finalement, dès que quelque chose de nouveau, ou en tous les cas un progrès est présenté comme tel, par le pouvoir en place, on s'imagine qu'il y a derrière des soupçons de, on va dire, on le voit aujourd'hui, sur ce qui se passe avec les vaccins, tous ces sujets-là. Moi, il y a une question qui m'interpelle aussi au sujet des écologistes et de la position qu'ils prennent en France. La 5G est en cours de déploiement, que je sache, en Allemagne. Le poids des écologistes en Allemagne est sans doute encore plus important qu'en France.
C'est ça, ce que dit Christian. Tous les écolos ne sont pas contre la 5G.
Donc je voudrais savoir si le sujet ne serait pas plutôt au niveau européen plutôt qu'au niveau franco-français. C'est peut-être une vraie question à se poser en termes de souveraineté économique et de déploiement en fait d'une technologie qui aujourd'hui a des répercussions certes sur nos vies mais sur nos emplois et sur les dizaines d'années qui viennent.
Benjamin Couchy.
Je réponds à votre question, Valérie. Est-ce que Emmanuel Macron cherche à abîmer les écolos ou à flatter les écolos? Je crois qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, les écolos, ils s'en foutent. C'est-à-dire que actuellement, Emmanuel
Emmanuel Macron est en train de faire une OPA sur les Républicains, essaye de récupérer l'aile, son aile droite, on va dire, pour conforter sa base, puisqu'on voit bien que sur l'aile gauche, c'est en train de frétiller. Donc, un, il part sur la droite pour conforter son camp. Deux, il va laisser les maires Europe Écologie Les Verts un peu partout en France montrer leur difficulté à être dans une logique de gestion de la réalité. Et puis, dans une phase 2, il ira s'occuper des écolos. Ce que je trouve intéressant chez Emmanuel Macron, forcément, c'est que lorsqu'on n'est pas d'accord avec lui, on est archaïque, alors qu'on soit de droite, de gauche, écolo ou pas. Si on n'est pas macronien, si on ne fait pas partie de la Macronie, on est chaos dans ce pays. Et ce côté clivant énerve. Alors que ce soit sur la 5G, que ce soit sur plein d'autres sujets, Emmanuel Macron est extrêmement clivant. Et au lieu d'apaiser la situation dont la France a vraiment besoin, il met de l'huile sur le feu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de dommage.
Pardon ? C'est pas le seul à cliver. Hein,
sinon, on s'ennuierait, on est bien d'accord.
C'est le président de la République.
Ouais. Sauf que lui, il est président et que c'est président de tous les Français.
Ouais.
Ça, il l'a oublié dans sa fiche de poste.
Il nous reste peu de temps, mais je voudrais qu'on dise un mot sur la gestion de l'épidémie et le grand bazar, pour rester poli, des tests, des mesures spécifiques à Bordeaux et Marseille, avec des mesures au doigt mouillé. C'est ce que disait ce matin le docteur Marty. Trop d'attentes pour les tests, pour les résultats. On manque de réactifs. Oui. Là, ça rejoint ce que disait Pierre Jacquemin en début d'émission. Quelles consignes pour les cas contacts? 81 établissements scolaires fermés. On n'arrive pas à remonter les cas contacts, on n'y comprend plus rien.
On est complètement perdu. Mais vraiment. Ouais. L'exemple des tests est incroyable. On fait des tests à tour de bras, ouais. Sauf que pour prendre un rendez-vous, il faut 3 jours ou se lever à 6 heures du matin. Une fois que vous avez votre test, vous attendez. J'ai un ami qui s'est fait tester hier. On lui donne le résultat 7 jours, ouais. 7 jours plus tard. Donc c'est la négation même de la valeur du test, parce qu'il a eu le temps de soigner ou pas soigner, de pas soigner plutôt.
Normalement, il a eu le temps d'être isolé surtout.
Ou pas.
Non,
pas
forcément. Normalement, on fait le test, on est censé s'isoler pendant 7 jours.
Mais non, parce qu'il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui vont faire des tests.
Si on a été un cas contact aussi, c'est le.
Et donc là, visiblement, là encore, je crois qu'il y a une impréparation. Parce qu'il manque totalement de réactifs. Et puis, il se passe des choses quand même actuellement qui sont quand même extrêmement choquantes, c'est les laboratoires, comme si vous avez besoin des résultats des tests très rapidement, ce qui est le cas si vous prenez un avion, parce que vous devez avoir un test dans les 72 heures. Un jour, certains labos de
facture.
C'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Là encore, il y a une impréparation. Mmh. Bon, il y a quelqu'un qu'on n'entend plus, qu'on voit plus.
Oui, c'est Olivier Véran.
C'est Monsieur Véran.
C'est vrai qu'il a disparu.
En revanche, on a beaucoup Monsieur Deflessis du conseil scientifique, qui lui aussi dit tout son contraire en 24 heures. Donc c'est un bazar, pour être poli, qui est invraisemblable et qui déconcerte complètement et qui n'incite pas les Français à respecter totalement les recommandations.
Ça, c'est vrai qu'il y a...
Benjamin Cochu.
Bah, c'est effectivement le grand bazar. Les Français ont besoin d'avoir des règles claires. Et là, le fait d'avoir donné au préfet la liberté d'adapter perturbe finalement les établissements scolaires, perturbe les entreprises, perturbe les particuliers. Ils ne savent plus exactement quoi faire. Et puis, sur la stratégie des tests que nous, on réclame depuis le début... avec Debout la France, ça s'avère complètement ubuesque. Je vous donne un exemple concret de la région toulousaine. Une jeune fille de 10 ans scolarisée dans une petite commune de Montberon, pas très loin de Toulouse, que vous devez connaître, Christine, a des symptômes grippaux ou d'angine lundi dernier. Elle va chez le médecin le lundi soir et le médecin me dit, bon, en temps normal, ça devrait être une angine, mais là, finalement, comme il y a du Covid en ce moment, il faudrait que vous fassiez un test. Le plus tôt qu'elle a pu faire le test, cette jeune fille, c'est le vendredi. Les résultats du tests ont été donnés hier. Donc, durant toute cette période de 7 jours, elle est restée à la maison, d'accord ? Et donc, le test s'est avéré positif. Bilan, ils ont fermé sa classe hier soir, d'accord ? Alors qu'elle avait déjà passé sa période de 7 jours. La réalité, c'est ça. Hier matin, aux Argoulets, à Toulouse, 180 personnes attendaient de faire un test. Hier matin, à 6h30 du matin, Bordeaux-Rouge, station de métro, à 6h30 du matin, ils n'avaient plus suffisamment de réactifs pour tester les gens. Donc voilà, partout, c'est...
Alors, sur la chienlit, c'est la chienlit. La demande est mondiale. Donc, tout le monde teste des milliards de gens.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une anarchie quand même en France où tout le monde
doit tester? On a un problème de souveraineté sur le médicament, sur les tests.
On peut tester plusieurs fois dès qu'on a envie. C'est ce que nous disent des auditeurs. Il y a une dame qui nous dit n'importe qui va se faire tester plusieurs fois.
Et ça, les médecins, notamment MG France, hein, les représentants des médecins que j'ai rencontrés la semaine dernière, disent qu'il faut arrêter cette politique du drive ouvert à tout le monde. Mmh. Ça doit être effectivement fléché par les médecins de manière à aller se tester quand il est nécessaire et de prioriser. Se tester pour avoir, et évidemment, pas engorger derrière les laboratoires qui peuvent plus répondre à la demande, tellement les gens se précipitent pour être testés, voire 2-3 fois par jour pour certains.
C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire il n'y a qu'à Faucon et on critique le gouvernement, mais souvenez-vous, Emmanuel Macron, le jour du déconfinement, il annonce qu'il va faire quasiment 1 million de tests, c'était début mai, on est pratiquement 5 mois plus tard, ça veut dire que ça n'a pas été anticipé. Et là, vous avez vu le rapport de la commission d'enquête qui a été rendu hier, où on nous explique qu'effectivement, il y a eu retard à l'allumage, si ce n'est plus que retard à l'allumage, début février, où on a compris que le gouvernement n'avait rien fait alors que les alertes avaient été données. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'en fait, il y a défiance de la classe politique, mais maintenant, il y a aussi une défiance de la classe scientifique, parce qu'il n'y a pas de consignes claires, sur ces histoires de tests, bon alors il y a les tests à l'hiver qui arrivent au mois d'octobre normalement, donc peut-être que ça va régler une partie du problème, mais ça aussi,
d'autres pays l'ont déjà fait depuis très longtemps. Mais là aussi, il va demander à Sophie Menton qui essaye d'obtenir une réponse pour des entreprises qui veulent commercialiser des tests salivaires et sanguins, et elle n'a aucune réponse, personne ne lui répond.
Où est le docteur Véran?
Absolument.
Si nos auditeurs le savent, qu'ils nous appellent.
Allez, on se retrouve demain, dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous. Très bonne journée.